Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour Francine.
Je voudrais que l'on reste à la toute première phrase de votre roman. J'ai voulu raconter dans ce livre le quotidien d'hommes et de femmes absolument terrifiés par la vie et qui dès lors s'entourent de solutions magiques. Qui sont ces hommes et ces femmes ?
Ces hommes et ces femmes, c'est des gens que je connais bien parce que c'est ma propre famille qui m'a entouré lorsque j'étais enfant de gestes adorables mais très étranges. Ils avaient des solutions à tout. Et dès lors, ils avaient des solutions pour rester riches, pour rester en forme, pour être vivant, pour être heureux. J'ignorais que ces solutions étaient toutes fausses parce que toutes superstitieuses.
Parce que vous n'êtes pas milliardaire jusqu'à preuve du contraire, donc ça n'a pas marché.
Je ne suis pas milliardaire, alors que selon eux, je l'aurais été parce que je prends mon plat de lentilles tous les premiers du mois. C'était la condition sine qua non pour être riche, je ne le suis pas.
Alors il y a les lentilles, en effet, il y a plein d'autres solutions magiques des membres de votre famille. Autre exemple, les chaussettes rouges. C'est quoi les vertus des chaussettes rouges ?
En effet, comme ma famille était arrivée du Maroc, qu'ils étaient arrivés en France sans réseau, sans rien, ils s'inquiétaient beaucoup de comment faire bonne impression auprès de quelqu'un quand on le rencontre. Un patron, un banquier ou quoi. Ils ont trouvé une astuce incroyable. Il suffisait de porter quelque chose de rouge. Voilà. Et c'est pourquoi, moi, quand j'ai tous mes premiers jours d'école, comme il fallait faire bonne impression à l'instituteur, on m'a toujours vu avec un pantalon rouge, un gilet rouge, une veste rouge et des chaussettes.
Vous n'en avez pas aujourd'hui ?
J'en ai pas aujourd'hui, mais je sais que ça va bien se passer.
Il y a aussi la quête d'un cousin, par exemple, pour dénicher l'un des prépuces du Christ. Ça paraît tellement incroyable dit comme ça qu'on se dit que c'est pas possible et pourtant c'est vrai.
Et pourtant c'est vrai. Quand j'avais 17 ans, mes parents m'ont emmené à Malaga pour que je passe l'été avec un de mes cousins. Et ce cousin cherchait les grandes reliques, les très grandes reliques qui datent du Moyen-Âge et de l'histoire catholique. Et sachez-le, l'une des plus grandes reliques, parce que le 1er janvier, c'était le jour qui lui était consacré, on ressortait le Saint Prépuce de l'enfant Jésus et on le promenait dans la rue. Et mon cousin m'a emmené en expédition à la recherche du Saint Prépuce que nous n'avons pas retrouvé.
Et il y en aurait eu plusieurs. Il n'y a pas eu que la multiplication des pains, il y a eu la multiplication des prépuces aussi,
visiblement.
Mais
ça qui était très drôle, évidemment. Chaque ville se concurrençait, chaque cathédrale se prétendait plus forte que l'autre. Et donc chacune, il y a une bonne dizaine en Italie, en Europe, en France, en Espagne, qui prétendait avoir la vraie, la véritable relique.
Alors il y a les solutions magiques, il y a aussi les détestations ou les peurs communes dans la famille. Par exemple, la figure d'Edith Piaf, elle est honnie dans votre famille.
Oui, quand j'étais enfant, on m'avait interdit d'écouter Edith Piaf. Alors, je n'en demandais pas non plus autant, mais en tout cas, dès qu'on l'entendait à la radio, on coupait. Et j'ai mis longtemps avant de comprendre qu'en fait, on la détestait car elle avait presque gâché la vie de ma famille et de ma mère, puisque c'est à cause d'elle qu'était mort le parrain de ma mère, qui était un grand boxeur dont vous connaissez le nom.
Et dont on connaît le rapport avec Edith Piaf.
Voilà, exactement. Il est mort en voulant la retrouver. Ce fameux Marcel Cerdan. Toute la vie de ma famille a été chamboulée. Imaginez-vous ce qui se serait passé si vraiment on avait eu cet ange gardien dans la famille.
Il y a beaucoup d'amusement et aussi beaucoup de tendresse à raconter tout cela. Mais en creux apparaissent aussi les traumatismes familiaux, le déracinement et tout ce qui finalement pourrait peut-être expliquer ce surgissement du merveilleux. Et tout ça, pour le coup, prête moins à rire.
Oui, parce que moi, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi toute ma famille était aussi pressé d'utiliser des superstitions. En fait, qu'est-ce qu'ils craignaient le plus dans l'avenir ? Qu'est-ce qu'ils avaient vécu dans le passé pour craindre autant l'avenir ? Et en effet, quand j'ai enquêté, j'ai compris qu'ils étaient partis du Maroc à la fin du protectorat, dans les années 70, et qu'ils avaient énormément souffert de quitter ce pays qu'ils chérissaient. Ils étaient rentrés en France, les valises vides, mais pleines de toutes ces superstitions qui étaient, vous savez, comme l'air de leur propre pays.
Et vous dites que vous continuez vous-même à avoir vos propres gris-gris autour de vous, vos habitudes protectrices, par croyance quand même, ou par fidélité à tout ça, par habitude ?
Ah oui, mais c'est vrai que la fidélité, c'est important. C'est très compliqué de trahir son enfance, trahir l'éducation qu'on nous a donnée. Moi, dans ce livre, j'essaie de faire le tri. Je ne peux pas tout garder, parce que sinon, il faudrait faire 20 ans de psychanalyse. Mais je ne peux pas tout rejeter, parce que personne ne peut rejeter la manière dont elle a été éduquée. Donc oui, je continue encore à mettre des petites chaussettes rouges et à avoir, vous savez, par exemple, cet œil bleu qu'on voit dans certains pays en collier qui protège du mauvais sort, du mauvais œil.
Alors tout ça donc, est à la fois drôle, tendre, et puis petit à petit devient assez bouleversant jusqu'à la fin du livre qu'on ne va pas révéler. Qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir vous intéresser comme ça sur la famille ? C'est justement cet événement de la fin du livre qui, rétrospectivement, vous a conduit à regarder cette lignée familiale et ses habitudes ?
Bien sûr, parce que moi, au tout début, on m'a menti. On m'a promis qu'il ne pouvait rien arriver à ma famille puisqu'on utilisait toutes ces superstitions. Or, j'ai vécu une perte. Voilà. Et quand j'ai perdu un être cher, je me suis dit, en fait, on m'a menti. Mais pourquoi ? pourquoi avoir joué sur ça ? Et j'ai essayé d'enquêter et de comprendre en fait à quoi servaient les superstitions. Comment tout ça calmait cette gigantesque angoisse que ressentait ma famille ?
Tout ira bien, c'est donc le titre du livre comme un mantra. Est-ce que tout se passe bien avec ce livre ? Est-ce qu'il provoque de belles rencontres avec les lecteurs ? Parce que je me dis que ça doit susciter pas mal de confessions. Une fois qu'on l'a lu, on se remémore tous plein de choses de cet ordre-là.
Ah non, mais bien sûr, moi là, c'est la rentrée littéraire et je me promène dans différentes villes chaque week-end, que ce soit à Cabourg, au Mans, à Saint-Étienne, et j'y rencontre des gens. Et vous savez, c'est très drôle, tout le monde commence initialement par me dire qu'il n'est pas superstitieux,
mais.
Suivi du mais. Et encore très récemment, une lectrice me dit, moi évidemment, je ne suis pas superstitieuse, mais comme mon fils a passé le bac, évidemment, j'ai mis des feuilles de laurier dans son jean. Je ne connais pas quelqu'un qui, un jour important, un événement, un partiel, un contrôle, un permis à passer, voilà, ne fait pas quelque chose, une sorte de rituel, pour quand même se protéger du mauvais sort.
Laurent Nunez, vous signez Tout ira bien chez Rivage, un livre qui contient tous les remèdes de la Terre pour tenter de déjouer les coups du sort. On ne sait pas vraiment si ça marche, mais ce qui est sûr, c'est que ça donne un très joli livre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.